La présidente, comme je prends la parole pour la première fois, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à la délégation de l'État parti et saluer celles et ceux qui nous suivent ici dans la salle et par webcast. Je vais soulever dans ce premier segment deux points. Le point 10 qui concerne la violence à l'égard des femmes, y compris la violence familiale et sexuelle. Donc, le comité note que l'État parti a pris des mesures importantes pour sensibiliser le public à la violence domestique et aux agressions sexuelles, notamment par la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux agents de santé. Des campagnes de sensibilisation ont également été organisées pour informer les femmes islandaises et migrantes de leurs droits et des recours dont elles disposent. Parmi ces initiatives, on cite le projet Breaking the Silence, Briser le silence, mis en œuvre en 2017 et 2019, et qui a renforcé la collaboration entre les différents services impliqués dans les affaires de violence domestique. Toutefois, selon des informations que nous avons reçues, malgré ces initiatives, les taux de condamnation pour infractions sexuelles restent faibles. Et les victimes, en particulier les femmes migrantes, continuent de se heurter à des obstacles pour accéder aux services d'aide et de justice, notamment en raison des barrières linguistiques et la complexité des procédures. Quelles mesures spécifiques l'État parti a-t-il prises pour continuer à sensibiliser la population à la violence familiale et aux agressions sexuelles, notamment en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation destinées aux femmes migrantes? Quels résultats ont été observés suite aux initiatives telles que le projet Briser le silence? L'État a-t-il développé des critères d'évaluation desdites initiatives? Le comité note également que pendant la pandémie COVID-19, l'État parti a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la violence domestique. Comment ces mesures ont-elles été évaluées en termes d'impact? Y a-t-il eu une augmentation des signalements de violence pendant cette période? L'État parti a renforcé aussi ses capacités les capacités des forces de l'ordre en matière d'enquête sur les infractions sexuelles. Des mesures ont été prises pour renforcer l'obligation pour la police d'informer les victimes et améliorer leur accès à la justice. Quel a été l'impact de ces mesures sur l'amélioration de la réponse de la justice pénale à la violence domestique qui semble rester répondue? Veuillez fournir des données sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations ainsi que sur les mesures de protection et comment sont-elles accessibles aux populations vulnérables, y compris les femmes d'origine étrangère. Le comité salue les efforts de l'État parti pour sensibiliser les professionnels de santé et Madame la Présidente de la délégation l'a souligné tout à l'heure, les professionnels de la santé à la violence domestique pour mieux repérer et orienter les victimes, en particulier au sein des populations vulnérables. Quelles mesures l'État parti a prises pour augmenter les ressources allouées aux services destinés aux victimes de violences sexuelles et familiales, en particulier pour les jeunes, les femmes migrantes et les femmes handicapées? Quelle approche l'État parti a-t-il adoptée pour que ces services soient adaptés et accessibles à toutes les victimes, notamment dans les régions rurales? Je passe maintenant au point 11 qui concerne l'orientation sexuelle. Le comité note que la loi 80/2019 sur l'autodétermination du genre repose sur le principe selon lequel aucun traitement médical ne peut être réalisé sans le consentement du patient. Quelles mesures l'État parti a-t-il prises pour garantir que les enfants intersexes ne subissent pas d'intervention chirurgicale non justifiée sur le plan médical? Malgré les mesures législatives importantes interdisant toute intervention chirurgicale inutile sur les enfants intersexes sans leur consentement libre et éclairé, Certains rapports affirment que ces mesures continuent encore il y a des exceptions inquiétantes pour certains types de variations des caractéristiques sexuelles telles que l'hypospadias et le micropénis, ce qui ne garantirait pas une protection égale pour les enfants intersexes. En outre, malgré l'entrée en vigueur de la loi, il existe des preuves que des cas de mutilation génitale intersexe continuent d'être pratiqués avec le soutien du système de santé médicale. Depuis l'adoption de la loi 154/2020, quelles mesures concrètes l'État parti a-t-il prises pour surveiller et garantir le respect de cette interdiction et quelles sont les garanties qui sont prévues pour assurer que les évaluations des interventions sur les enfants intersexes respectent les droits de l'homme et comment l'État parti prévoit de remédier aux lacunes révélées par certaines parties prenantes, dont notamment les ONG. Enfin, le comité note qu'avant la fin de 2023, un groupe de travail a été créé pour réexaminer les exceptions prévues par la loi à la lumière des nouvelles connaissances et des meilleures pratiques en matière des droits humains. Quelles sont les attentes et les objectifs du groupe de travail concernant les interventions sur les enfants intersexes? Comment l'État parti envisage-t-il d'intégrer les résultats de ce réexamen dans la législation future? Je vous remercie pour votre aimable attention et j'ai hâte d'écouter vos réponses. Merci.